Oui, Père, merci pour l'annonce du pardon, de la grâce. Jamais nous ne pourrons te remercier comme nous devrions le faire. Mais toujours nous aurons dans nos prières cette demande d'aide de ta présence, de ton esprit, pour que nous puissions vivre selon ta volonté. Et en particulier, lorsque nous lisons le témoignage de l'Écriture, qui vient parfois de si loin, ouvrons nos cœurs à cette Écriture, que nous puissions saisir derrière ces textes quelle est la vérité qui s'y transmet finalement et qui fait vivre. Ouvrons nos cœurs à ta parole. Amen. Et donc, je vous invite à entendre deux passages. Le premier dans l'Exode, au chapitre 15, des versets 22, au chapitre 16, des versets 3. Moïse fit partir Israël de la mer des joncs, et ils sortirent vers le désert de Chour. Ils marchèrent 3 jours au désert sans trouver d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ne purent boire l'eau de Mara car elle était amère, d'où son nom Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Celui-ci cria vers le Seigneur et le Seigneur lui indiqua un arbre d'une certaine espèce. Il en jeta un morceau dans l'eau et l'eau devint douce. C'est là qu'il leur fixa des lois et des coutumes. C'est là qu'il les mit à l'épreuve et il dit « Si tu entends bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes tous ses décrets, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car c'est moi, le Seigneur, qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim. Il y a là 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Ils partirent d'Élim et toute la communauté des fils d'Israël arriva au désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Et les fils d'Israël leur dirent « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près du chaudron de viande, quand nous mangeions du pain à satiété, vous nous avez fait sortir dans ce désert pour nous laisser mourir de faim, et pour laisser mourir de faim toute cette assemblée. » Voilà. Alors, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, je vous invite à entendre des versets 6 à 15. Voilà, c'est une aventure de l'apôtre Paul. Alors, 16, 6 à 15. Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région de Galate. Car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus les en empêcha. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut la vision. Un Macédonien lui apparut debout, qui lui faisait cette prière : « Passez en Macédoine, viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions convaincus que Dieu venait de nous appeler pour y annoncer la bonne nouvelle. Prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace, puis le lendemain sur Néapolis, et de là nous sommes allés à Philippe, la ville principale du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville, et le jour du sabbat, nous en avons franchi la porte pour gagner le long d'une rivière un endroit où, pensions-nous, devait se trouver un lieu de prière. Et une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, était marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui adorait déjà Dieu. Elle était toute oreille, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, elle nous invita en ces termes « Puisque vous estimez que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et elle nous a forcés d'accepter. Voilà, Père, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, l'exode, vous le connaissez, cet épisode des eaux de Mara aussi, évidemment, j'espère, que vous avez quelques souvenirs passés. Et je ne sais pas si l'histoire de Paul qui traverse les détroits des Dardanelles vous est plus familier. Mais dans tous les cas, ces récits qui sont très différents, puisque l'un concerne un peuple entier et l'autre concerne un personnage particulier, eh bien, sont importants. Ils nous parlent finalement, si on y regarde d'un peu plus près, parce qu'ils à la fois de manière collective et de manière personnelle. Ce qui m'intéressait dans cette affaire, c'est le fait de partir. La Bible, ça commence, l'histoire, l'aventure commence par un départ. C'est d'abord celui d'Adam et Ève. On me dirait, il y a des départs qui se passent mieux. Mais n'empêche que lorsqu'Adam et Ève sont fichus à la porte du paradis, je vous l'avais dit une fois, je m'en souviens, hein, ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu les accompagne quand même, puisqu'il les habille de peau de bête. Hein, ils étaient nus, ils renvoient pas, ils n'ont pas Adam et Ève comme ça dans le monde, hein, tout nus, il les habille, bon, il fait attention un petit peu à eux quand même. Donc il les accompagne, il ne laisse pas partir n'importe comment. Mais dans tous les cas, ils partent. Ils partent, et c'est une excellente chose. J'avais écrit dans un article d'Évangile Liberté, je me souviens, que c'était très bien qu'Adam et Ève aient été chassés du paradis, parce qu'il fallait qu'ils quittent les jupons de papa pour pouvoir grandir un petit peu, finalement. Et on pourrait gloser là-dessus beaucoup. Mais ça commence par un départ. Je crois que c'est tout à fait nécessaire de le souligner, d'autant plus que, un peu plus tard, quand on commence à quitter tout ce qui est l'ordre de la mythologie pour entrer plutôt dans la légende avec Abraham, eh bien Abraham aussi est obligé de partir. Il va quitter Ur en Chaldée, vous le savez, hein, dans la ville du sud de l'Irak, et puis il va partir pour la Palestine à travers les déserts du Moyen-Orient, ce qui n'est pas une aventure évidente. Mais dans tous les cas, elle est bien attestée dans la Bible. Et je crois que là aussi, si le début de l'aventure humaine est un départ, si le début de l'aventure des Hébreux est un départ personnel là, de l'ancêtre, du fondateur, c'est pas pour rien. C'est évident que l'Exode aussi, cette grande épopée de l'Exode, est là aussi pour nous parler aussi d'un départ. Partir, c'est pas évident, je veux dire, c'est pas évident parce qu'il faut s'arracher à soi-même d'abord, il faut aller vers des horizons nouveaux qu'on connaît pas, enfin, il y a toujours une part d'aventure dans un départ, même dans un départ très très simple, évidemment. Il y a des circonstances qui sont très variées, on peut partir pour des choses positives, mais on peut partir chassé par la peur, par la misère, ne sais-je encore, je veux dire, évidemment. Mais ce qui est intéressant d'abord, c'est que l'Exode, je dis à certains, c'est un accouchement véritable. C'est vraiment un récit d'accouchement qui est là, c'est-à-dire c'est une vie nouvelle, hein, que permet le passage de la mer des joncs. Une vie nouvelle pour un peuple nouveau. Pâques, c'est un passage. Partir, c'est passer, mais véritablement. Je veux dire, c'est changer de direction. Hein, c'est aller vers, après cette ouverture, vers le désert et vers l'inconnu, finalement. Alors c'est vrai que partir c'est difficile, il peut y avoir des regrets, et ça c'est terriblement humain. Les eaux de Mara, là, le désert du côté d'Élim et tout ça, et là pour le dire, c'était, ah oui, effectivement, on est sorti, mais finalement avant on avait à manger, avant il y avait de l'eau pure, avant. Je pensais, en écrivant ces lignes, à Michel Serres, qui a dû écrire son dernier, ce dernier opuscule là-dessus, si je ne me trompe. Si c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Hein. J'ai plus le titre, mais enfin, c'était mieux avant. Voilà. Hein. Vous pouvez l'acheter, il se lit très facilement. Dans la soirée, vous l'aurez lu. Mais et c'est vrai que c'est mieux avant. C'est mieux avant. Ah, quand les églises étaient pleines, mes pauvres amis, c'était formidable. Mais ces églises pleines, avec ces grands pasteurs, ces grands paroissiens, etc., ils ont légué des églises vides. Voilà. Donc c'était pas si bien que ça. N'allez pas rêver, hein, des grandes assemblées comme ça, finalement. C'était mieux avant. C'était mieux avant, je veux dire, quand il y avait moins de pollution. Hein, c'était mieux avant quand il y avait des réunions qui étaient faciles. L'emploi du temps qui n'était pas pollué par les activités, les suractivités, des écrans qui brillent comme cela et qui nous pompent du temps, etc. Enfin bref, j'ai discuté là avec un des jeunes tout à l'heure qui me disait qu'en Amérique, les jeunes adolescents aux États-Unis passaient près de 6 heures par jour devant leur petit machin comme ça, alors que je leur dis que les enfants des patrons de la Silicon Valley étaient interdits de tablettes, eux. C'est-à-dire, c'est curieux. Mais c'était mieux avant. C'était mieux avant, quand l'espérance de vie avait 20 ans de moins, quand il y avait des famines en Chine, je m'en souviens, on en parlait quand j'étais enfant. Quand il y avait des famines en Inde aussi, on en parlait quand j'étais enfant. Il y en a toujours des famines, bien sûr. Malheureusement, on aimerait bien que ça s'arrête, hein. Je pense à l'Afrique en particulier. C'était mieux avant, quand on a fait péter la bombe atomique. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas. C'est bien quand il y avait des camps de concentration, même jusqu'en France, en Alsace, avec le Sutorf, par exemple. Je ne sais pas si c'était si bien avant. J'en ai pas tout à fait la conscience. Mais immanquablement, c'était mieux avant. J'ai souvent réfléchi à cette question de savoir pourquoi c'était mieux avant. Ben, y a plusieurs raisons. C'est que l'avenir est toujours opaque et toujours incertain. Alors que le passé, bon, on connaît, c'est une terre connue, le passé, mais le futur, c'est une terre inconnue, donc voilà. Il y a toujours des inquiétudes qui sont là, justifiées pour certaines, évidemment, injustifiées pour d'autres. Et puis avant, on était jeunes. Évidemment, moi, quand j'avais 20 ans, c'était pas mal aussi, évidemment. Le monde, je le voyais avec un œil qui n'est pas celui que j'ai aujourd'hui, à un âge un peu plus avancé, évidemment. Comme ça. Alors évidemment, c'était mieux avant pour moi. Mais est-ce que c'était mieux avant? Pas sûr. Voilà. Alors nos Hébreux qui ont quitté les conditions d'esclaves telles que le raconte cette épopée de l'Exode, ils sortent vraiment de manière difficile avec Dieu qui les a fait sortir d'Égypte et ils trouvent le moyen au bout de quelques jours de râler. Très vite. Ainsi est le monde qui a du mal à reconnaître ce que Dieu fait pour lui. Partir. Partir, quitter l'avant pour aller vers le futur, c'est une aventure qui est extrêmement tentante. Parce qu'on a envie de bouger, on a envie d'aller voir, on a envie de rencontrer, on a envie de découvrir, évidemment, tout le temps. Mais ça fait aussi un petit peu peur. C'est tout le problème des défis. Les défis qui sont là devant nous et qu'il faut, pour vivre, pour s'accomplir de cette manière, qu'il faut affronter, qu'il faut oser franchir des barrières ainsi. Et il faut bien que Dieu nous vienne en aide et nous inspire, bien souvent, pour pouvoir oser ainsi se lancer. Dieu guide son peuple. Il guide son peuple vers la promesse, finalement. Et l'épopée de l'Exode, malgré les murmures, les trahisons, les difficultés, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous lisez à travers le livre de l'Exode, du Nombre et du Deutéronome, eh bien, finit par aboutir quand même à l'accomplissement d'une promesse. Dieu va entrer, tel que nous le raconte le livre des Juges, dans le pays qui a été promis à Abraham, lorsqu'Abraham a quitté Ur en Chaldée. Précisément. C'est une conversion véritable, c'est une naissance, c'est une grande nouveauté. Un peuple là est né, un nouveau peuple. C'est le peuple hébreu qui deviendra les Juifs, le peuple d'Israël, finalement. C'est une aventure collective qui est là pour nous inspirer. Si la Bible l'a retenu, finalement, c'est que ces textes sont là pour nous parler de manière collective. Et il nous appartient à nous aussi de passer, de vivre Pâques d'une manière ou d'une autre, collectivement parlant, d'oser faire ceci ou cela, d'oser faire une fête, par exemple, un dimanche après-midi, là, vers la fin de l'automne, pour annoncer Noël dans une paroisse de banlieue, comme ici. Après tout, pourquoi pas, il faut oser. Il faut oser et il faut partir s'arracher à notre habitude, que sais-je encore. Mais il faut y aller aussi de manière individuelle. Et là, je pense à Paul. Paul, c'est le grand apôtre de la Turquie. Vous savez, toutes ces régions, la Phrygie, la Pamphylie, etc., dont vous avez entendu les noms dans la lecture, c'est la Galatie, c'est en gros la Turquie centrale et la Turquie du Nord. Hein, en gros, voilà. Donc Paul se balade dans tout ça. C'est ce qu'on appelait autrefois l'Asie. Et il prêche dans les synagogues d'abord, comme ça se faisait selon la coutume, avec quelquefois succès, quelquefois rejet, voire des violences qu'il a subies, etc. Et là, il a une vision, il faut qu'il aille en Europe. Et donc, il va franchir, là aussi, traverser la mer, hein, au niveau des détroits du Bosphore, des Dardanelles, à Troas. Donc, il y va. Il y va et il va débouler en Europe. C'est le début de l'évangélisation de l'Europe telle que la Bible nous le rappelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu déjà des prédications de certains chrétiens dans le monde romain occidental, mais là, ça va être vraiment avec l'apôtre Paul de manière systématique. Il traverse la mer, mais en fait, là aussi, il est un peu comme les Hébreux. C'est pas où il va aller, finalement. Parce que s'il connaît bien la région de Palestine, de Damas, il n'empêche que la région de la Macédoine, de la Grèce, ce sont des régions qui lui sont inconnues. Et donc, là aussi, il traverse la mer. Il traverse la mer, il arrive à Philippe, traverser, c'est quand même un thème biblique, comme je vous l'ai dit, qui revient assez souvent dans l'Ancien Testament, puisque je vous ai cité Adam et Ève, le peuple hébreu. Mais lorsque Jésus dit « passons sur l'autre rive », par exemple, « allez, on va traverser le lac, hein, on va aller voir du côté des païens comment ça se passe », en gros, c'est ça qu'il dit à ses disciples, et puis ça se passe pas bien, parce qu'il y a la tempête et tout le bazar, enfin bon. Pas simple là aussi, je veux dire. On a là un passage aussi, et ainsi de suite. On pourrait trouver des récits comme cela où il faut aller ailleurs, il faut partir. Et Paul, il part comme cela avec l'aide. Il n'est pas parti à main forte comme les Hébreux avec ses plaies d'Égypte. Non, il est parti sur une vision. Mais Dieu est avec lui, évidemment. Peut-être qu'avec les Hébreux, il arrive à Philippe, qui est la capitale de la Macédoine. C'est une grande ville. Et aujourd'hui, elle a des ruines qui sont assez imposantes, d'ailleurs, qui se visitent. Mais se visite aussi ce lieu supposé où Paul a rencontré Lydie. La rivière est là. C'est une petite rivière, presque un ruisseau. C'est un coin qui est tout à fait agréable. Et on imagine là des femmes venant se retrouver à la sortie de la ville. On le voit assez facilement. Pour faire, se faisait autrefois les lavandières, hein, c'est-à-dire laver leur linge, discuter entre elles, se rencontrer, et Paul est là, et il leur parle, et Lydie entend la prédication. On la retrouvera, cette Lydie, elle est dans l'Épître aux Romains aussi, on la retrouve un peu partout, hein, ça va devenir une disciple de l'apôtre Paul, finalement. Et je trouve que c'est intéressant. Donc c'est intéressant parce que là va se nouer finalement à partir de la prédication à Philippe, qui est pas facile, hein, parce qu'ils vont être persécutés, hein, à Philippe, hein, Paul et compagnie. Mais là se noue une aventure qui est intéressante parce que ça a pris finalement, ça a continué. Vous voyez, les Hébreux sont sortis d'Égypte et ils sont toujours là. C'est ce que donnait comme preuve de l'existence de Dieu le médecin du roi de Prusse. Hein. Nous sommes toujours là, nous les Hébreux. C'est une preuve de l'existence de Dieu. Donc voilà. Nous sommes toujours là, nous aussi, à la suite de l'apôtre Paul, finalement. Si on lit les Actes des Apôtres, les grandes épîtres de Paul et celles qui lui sont attribuées, même si elles ne sont pas lues, ça nous est égal, je veux dire. Mais on est toujours là. Ces aventures ont porté leurs fruits. C'est-à-dire, lorsqu'on part pour la vie, c'est-à-dire lorsqu'on part avec un projet, lorsqu'on part avec l'appui de Dieu, finalement, en disant il y a une puissance qui est là, qui est une puissance de vie extraordinaire, ça vaut le coup d'y aller, alors effectivement, on laisse des traces derrière soi. On laisse des traces et qui vont fructifier d'une certaine manière. C'est ça l'aventure biblique, finalement. C'est ça l'aventure biblique qui nous dit il faut partir. Elle parle de nous, parce qu'il nous faut partir toujours. Il ne faut pas qu'on reste statique. Il faut oser. Il faut oser, évidemment. Oser en remettant à Dieu nos projets, nos vies, hein, pour éviter de déraper, évidemment, ça va de soi, je veux dire. Parce que la liberté ne peut pas se concevoir sans un minimum de responsabilité, évidemment. Partir. Je pense aux jeunes qui doivent partir. D'abord, ils sont nés, les jeunes. Et nous sommes nés, les vieux aussi. Nous avons quitté le ventre maternel, le sein maternel. Donc on commence la vie par un départ. Dire, s'il n'y a pas ce départ, il n'y a pas de vie, évidemment. Mais ça continue. Et les adolescents qui disent je veux aller vivre ma vie, vous savez, c'est une expression qu'on entend. Je dis, j'ai envie de vivre ma vie. Voilà, ça, qu'est-ce qu'ils sont énervants. je suis grand-père 10 fois, je vous le dis au passage. Donc on ne s'en sort pas, je veux dire. Donc ils ont envie de liberté, ils ont envie d'expérience. Et je trouve que c'est très bien. Il faut qu'ils aient cette envie. faut qu'ils aient envie de faire, de partir. Voilà. Alors évidemment, il faut qu'ils partent au bon moment. Il ne faut pas qu'ils partent trop tôt. Il faut qu'ils soient un petit peu armés. Évidemment, c'est toute l'éducation qui est là. Mais il faut partir. Et je pense à ces jeunes diplômés qu'on envoie faire des stages à l'autre bout du monde. Le nombre de catéchumènes que j'ai vu partir en Australie, en Chine, à Singapour, je ne sais pas très bien, partout, enfin, aux États-Unis, c'est incroyable. Incroyable de voir combien les jeunes partent, vont à l'aventure aussi. Je trouve que c'est quelque chose de tout à fait formidable. Tout à fait formidable. Et l'Église accompagne ces départs tout au long de la vie d'un être humain. Par exemple, d'abord la naissance avec le baptême, je veux dire, et comme je disais, l'autre soir, la réunion de prière qu'il y avait avec les musulmans et les juifs, je disais, le blanc, c'était avec l'Apocalypse. Le blanc, c'est la couleur de la vie, de la résurrection. Alors, il y a un premier départ. Avec la naissance, c'est le baptême. Toc, il y a une robe blanche pour le baptiser. Ouais, c'est bon. Et puis, à un moment où il y a l'adolescence, où les jeunes ont envie de partir, etc., eh bien, il y a le baptême, pour ceux qui n'ont pas été baptisés, ou la confirmation du baptême. Et là, autrefois, les baptêmes étaient en blanc. Maintenant, ils arrivent n'importe comment. Je sais, ben, c'est un peu dommage, mais on perd le sens de la symbolique et on perd une richesse. Mais ils étaient en blanc. Ils étaient en blanc pour signifier que là aussi, c'est la vie, c'est une nouveauté de vie. C'est-à-dire qui est annoncée pour le jeune qui va partir, qui va se lancer dans la vie à ce moment-là. En gros, ou dans les 2 ou 3 ans qui suivent. Et puis après, il y a la mort. Il y a la mort, on quitte cette vie pour entrer dans une autre vie. Et là aussi, le linceul est blanc. Dire comme par hasard. Vous voyez, c'est à chaque fois la résurrection, la nouveauté de vie qui est annoncée, et qui jalonne finalement notre vie dans cette symbolique qui devrait être finalement. Mais enfin, c'est comme ça. Je veux dire. Et pareil pour les mariés. Les mariés sont en blanc parce que pour eux, c'est une nouveauté de vie, c'est une nouvelle aventure qui se joue aussi. Et voilà. Voilà, l'Église est là pour le dire et pour le vivre, pour accompagner, bien sûr, partir. Partir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Partir, c'est espérer. Partir véritablement, quand on part, on espère trouver quelque chose, trouver quelqu'un, trouver une nouvelle culture, apprendre finalement, découvrir aussi, rencontrer les autres, les entendre des histoires finalement, bâtir aussi quelque chose avec les autres dans cette nouveauté qui est là finalement. Partir, c'est peut-être mourir un peu parce qu'on abandonne toujours quelque chose quand on part. Et c'est pour ça que c'est difficile, mais c'est toujours vivre parce qu'on va créer, parce qu'on va faire quelque chose, parce qu'on va construire quelque chose, parce qu'on va être construit aussi dans la rencontre avec l'autre. L'autre. L'autre, d'abord, c'est Dieu. C'est Dieu qu'on rencontre dans la méditation, dans la prière, dans les lectures bibliques aussi. Dieu que nous rencontrons en Jésus-Christ, bien sûr. Un Dieu qui nous communique l'espérance. Un Dieu qui sort aussi lui-même pour aller à l'aventure de la vie, pour aller à l'aventure de la vie des hommes, pour aller les rencontrer, pour aller les aider et les aimer. C'est le Dieu Esprit qui est là depuis le début dans tous ces voyages dont je vous ai parlé et dans bien d'autres. C'est Dieu Esprit qui est là dans nos voyages, lorsque nous passons sur l'autre rive. Lorsque nous sommes comme le fils prodigue et que nous tentons des aventures qui parfois ne marchent pas toujours très bien, mais ça ne fait rien. Il est parti, il a tenté, il a essayé. Il est revenu peut-être déçu, peut-être pauvre d'un certain nombre de choses, mais il est revenu avec la richesse qui est cette certitude que le Père finira par l'accueillir malgré tout. Ce sont des textes formidables, fantastiques, des textes forts, tous ces textes qui nous parlent de voyage finalement dans la Bible, que ce soit celui de Paul qui traverse les Dardanelles, que ce soit la sortie d'Égypte, l'aventure d'Abraham, ou que sais-je encore, ce sont des textes forts. Les paraboles qui nous racontent l'histoire que raconte Jésus, ou qui nous racontent l'histoire de Jésus, sont des textes forts aussi, je veux dire, qui nous disent que nous avons besoin de nous arracher à nous-mêmes pour aller ailleurs. On n'a pas besoin d'aller bien loin pour vivre un grand voyage. Quelquefois, c'est dans la porte qui est à côté et dans laquelle il faut frapper. Mais ça n'empêche, il faut y aller. Et l'Exode est là pour nous dire que dans cet arrachement, dans ce bond qu'on va faire dans l'existence, eh bien, lorsque c'est communautaire, il se passe quelque chose de commun avec tout le monde, qui est la loi. L'Exode, avec ce voyage, nous dit, eh bien, il y a aussi la loi. qui va vous permettre de vivre en toute fraternité les uns avec les autres. Et Paul qui parle, lui, c'est pas la loi, il est tout seul, il vit avec lui-même, encore que c'est un homme de la loi, il la connaît évidemment la loi, il sait comment la vivre, il nous le dit assez dans l'épître aux Romains. Mais c'est l'homme qui apporte la bonne nouvelle. Alors là, de manière individuelle, nous apportons quelque chose aux uns aux autres et nous recevons quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la loi, mais qui est de l'ordre de l'espérance. Paul est parti plein d'espérance vers la Macédoine qu'il ne connaissait pas, évidemment. Comme Dieu est parti vers le monde en Jésus-Christ, vers une aventure que peut-être il n'avait pas prévue. Est-ce que Dieu a prévu la croix? Allez savoir. Personnellement, je ne le crois pas. Mais vous n'êtes pas forcé de suivre un hérétique de mon genre. Et nous, qu'est-ce qu'il nous reste dans nos voyages, dans nos aventures, dans nos projets finalement? Ben, il nous reste quelque chose de la loi lorsque nous faisons ces projets ensemble en communauté d'église. Il nous reste quelque chose de la bonne nouvelle, évidemment, lorsque nous sommes dans l'individualité, seuls face à nos projets. Il nous reste surtout, à toutes et à tous, quelque chose que nous appelons l'espérance du royaume et l'espérance de la vie et de la résurrection. Amen.